Green Valley, la radio dans le vent, la radio qui vous décoiffe.
Bienvenue sur Green Valley, la radio de l'hôpital de Valvert. On se trouve dans la salle de spectacle, vous pouvez y venir. Le thème d'aujourd'hui, c'est le refuge, pas étonnant pour un asile. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gaëlle.
Salut Grégoire.
Salut.
Avant tout, je voudrais juste me présenter. Donc, je suis Gaëlle, infirmière à Aubignane. C'est un hôpital de jour qui se trouve à Aubagne. Comme tu me disais, l'émission du jour, c'est le refuge. Donc, on va entendre pas mal d'interviews, de sons, d'ambiances, en lien avec le colloque qui s'est déroulé donc à Valvert, le colloque Valfort, dont le thème était justement le refuge, l'abri, la cabane. Donc, on va en premier lieu écouter donc une ambiance captée par Richard. Et sur cette même journée, avant de vous laisser écouter, je vous mets en condition. Valvert avait décidé que c'était la journée de l'apaisement. Bonne écoute.
Valvert, 11 juin. On s'active autour des cabanes. Quelques sons et rumeurs sont perceptibles.
En ce moment, le meilleur du design et de la technologie audio-hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390 € par mois sans appel.
La nature est belle.
Je pense que la cigarette est un refuge, ouais. Un refuge pour un peu tenter de faire diminuer un petit peu l'angoisse. Puis la fumée, ça fait un peu écran quand même. Donc peut-être qu'on se réfugie derrière la fumée. Eh bien, ça fait écran à ce qu'on est, peut-être qu'on n'a pas envie de montrer.
Pour moi, ce qui va faire refuge, c'est plutôt le collectif. Ouais, c'est plutôt l'échange avec les autres qui va me rassurer. Oui, c'est plutôt ça.
Et d'ailleurs, le congrès m'a aidé à alimenter un peu ma réflexion sur le refuge, et notamment le refuge que l'on peut trouver en soi, et aussi le refuge que l'on peut trouver à travers des livres. Je sais qu'il m'est arrivé plein de fois où justement je me sentais un peu pas bien, un peu mal et tout ça, et où quelque part de lire un livre. Ben, c'est une sorte de parenthèse et ça faisait cet effet refuge, en fait. Cet effet où, quelque part, je suis ailleurs. Je ne suis pas parasitée par les questionnements que l'on peut avoir sur son quotidien ou autre, et où, en fait, on se libère et on trouve un abri, j'avais envie de dire, dans les livres.
Oui, moi, pour moi, c'est tout à fait ça. C'est les livres aussi. Donc... C'est vrai qu'on est ailleurs, on fait autre chose, on vit avec le livre.
Oui.
Puis on peut l'amener dans son sac partout avec soi.
Oui, 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 c'est vrai. Et il n'est pas éphémère. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est que des fois, on se replonge dans des souvenirs de livres qu'on a lus. Et où, en fait, je trouve que les livres que l'on lit, et surtout ceux qu'on a beaucoup appréciés, ben, nous servent parfois à... pas qu'à des réflexions, mais aussi à des, oui, à une sorte d'abri, à se dire, tiens, j'avais déjà lu ça quelque part, et effectivement, là, un moment clé, je trouve que ça fait, j'arrive pas à trouver les mots, Mais ça a cette fonction. Les livres ont cette fonction. Ou parfois, on se dit, tiens, je vais me réfugier.
Merci aux auditeurs et auditrices d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Green Valley. Alors moi, je me présente, je suis Célia, je suis psychologue à Valvert. Et juste pour vous dire un petit mot de ce que vous venez d'entendre, donc là, c'est des petits sons issus d'un micro-trottoir qu'on a fait lors du colloque de Valfort les 12 et 13 juin dernier. On était toute une équipe de journalistes, hein, de journalistes, d'intervieweurs en tout cas, et en équipe de 4 ou 5, on a pris des sons, on a pu poser des questions à certains intervenants. Et sur cette question du refuge, on poursuit aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'être avec Grégoire, du coup.
Bonjour.
Qui redit bonjour. Et on a fait, c'est Grégoire peut-être qui a eu surtout l'envie Tiffaine. Alors, on a comme invité Tiffaine Croche.
Oui, bonjour.
Bonjour Tiffaine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu as fait une intervention au sein du colloque de Valfort.
Oui, effectivement, j'ai fait une intervention à Valfort vendredi fin de matinée.
Ouais, est-ce que, alors bon, juste pour dire, tu es pédopsychiatre et spéléologue à Valvert, je le dis tout en même temps parce qu'on a envie de tout penser dans le même temps. Tu es peut-être plus pédopsychiatre à Valvert, mais ça anime aussi ta pratique.
La spéléologie, oui.
J'ai dit.
Je suis plus pédopsychiatre que spéléologue à Valvert, effectivement, Valvert. Mais je suis peut-être beaucoup spéléologue et ça façonne un petit peu ma façon peut-être de voir la pédopsychiatrie, remarque, effectivement. Voilà.
Et Grégoire, tu avais une question
pour Tiffaine. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que la grotte, ça n'a pas quelque chose de primaire? Pardon, excusez-moi, je me suis un peu éloigné du micro, alors je ne sais pas si vous m'entendez, je me répète. Est-ce que la grotte, ça n'a pas quelque chose de primaire? Grotte des hommes préhistoriques ou ventre de la mer?
Alors, quelque chose de primaire, oui, certainement un petit peu quelque chose d'assez archaïque, solide. La grotte des hommes préhistoriques, on y pense souvent quand on est au sein des cavités. La question du ventre de la mer, ça m'a été posé comme une évidence par une collègue. Et c'est vrai que moi, par contre, je n'avais pas du tout imaginé les choses ainsi. Quand je lui ai parlé de mon intervention et que je lui ai lu, ça lui a fait penser à un accouchement, en fait. Quand je parle des étroitures, qu'il faut qu'on se torde un peu dans tous les sens, ça lui a rappelé un petit peu cette question de l'accouchement et de la naissance de l'enfant qui doit passer... du ventre de sa mère à l'extérieur. Et c'est vrai que moi, ça m'avait pas effleuré cette proposition-là, mais je pense qu'elle est... Enfin, c'est quelque chose qui doit être en chacun. Donc, c'est possible qu'effectivement, ce soit aussi quelque chose de primaire de cet acabit, comme la question du ventre de la maman.
D'accord.
Et il y a quelque chose qui nous avait un peu marqué, on était plusieurs à le remarquer, que tu disais surtout que tu avais le plaisir d'y entrer, surtout pour le plaisir d'y sortir.
C'est alors, ça.
Bon, l'accouchement, on ne va pas dire que c'est un plaisir, par contre.
D'en sortir le... Je ne sais pas.
Mais en tout cas, voilà, ça se fait quand même, ce qui me semble aussi que tu avais emmené un groupe d'adolescents.
Oui, on a emmené plusieurs groupes d'adolescents. On avait emmené ceux de l'Oasis, et puis là, on a emmené ceux de Nausicaa. Et effectivement, moi je trouve que c'est toujours intéressant de, comme je vous l'ai un petit peu dit, de sortir un peu de sa zone de confort et de voir un petit peu comment on est aussi dans d'autres lieux. Et puis ce qui était marquant quand même quand j'ai emmené avec les collègues les adolescents de Nausicaa, c'est que tous, quand ils sont sortis, quelle que soit leur problématique, ils ont tous dit que ça avait été un moment apaisant.
Quelque part, c'est un peu comme une renaissance en fait. Je passe au niveau symbolique.
Alors, quand, pour eux, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas interrogés sur ce sujet. Je pense que quand on y va juste une fois, c'est trop peu pour avoir encore cette façon de voir les choses. Mais pour moi, effectivement, à chaque fois, c'est une forme de renaissance au monde extérieur, effectivement.
Et je me permets aussi, dans le cadre de notre pratique à Valvert, là, donc, tu parles d'un moment qui fait apaisement. Dans un gouffre, dans quelque chose de fermé, possiblement angoissant, comme ça, hein, quand on le prend très rapidement dans le noir. Donc on peut dire, tiens, en quoi ça vient faire apaisement? Mais il y a quand même quelque chose là-dedans, c'est aussi qu'on sait qu'on va en sortir. y a quand même ce truc-là. Et pour faire le lien avec le reste de l'émission, ce qu'on va parler de la question de l'apaisement, qui a été pris dans toutes des réflexions sur le moindre recours à la chambre d'isolement, on peut se dire que ce qui peut parfois faire refuge, c'est une forme d'isolement quand on a l'assurance qu'on va en sortir.
C'est ça. Oui, oui, c'est sûr. Et même pour le bébé, tu sais, je crois qu'à la fin des 9 mois ou d'un certain temps, je pense que même pour lui, c'est une forme d'apaisement de pouvoir sortir, parce que ça commence à devenir très étroit, le ventre de la mère. Et en tout cas, pour moi, dans la pratique de la spéléologie, effectivement, ce qui fait que j'adore y entrer, c'est que je sais que je vais... C'est ce moment de la sortie possible qui fait que c'est le merveilleux. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, effectivement, c'est cette sortie.
Et est-ce que, du coup, peut-être pour finir, peut-être cet entretien, tu avais fait une description très sensorielle de quand tu rentres dans la grotte puis en ressort. Est-ce que tu pourrais nous remettre comme ça rapidement dans ce que ça provoque dans ces moments-là, une entrée de grotte et une sortie peut-être?
Oui, alors à l'entrée de la grotte déjà, par exemple, quand il fait un temps comme aujourd'hui, donc extrêmement chaud, on s'approche du trou, du gouffre, et on sent un petit air. Parce que, comme je vous l'ai dit, la grotte, elle est à température constante et en général, il fait 14-15 degrés. Donc, comme aujourd'hui, bah, ça pourrait rafraîchir. Quand c'est le plein hiver, bah, ça réchauffe. Et une fois qu'on entre, donc il y a la lumière qui s'apaise, qui diminue largement. Puis plus on s'enfonce dans la grotte et moins on a de stimuli, le son qui s'atténue, la vue qui se rétrécit. Et il y a même la question du toucher. C'est-à-dire que tout va être... Il y a beaucoup moins de stimuli, mais ils vont être beaucoup plus ressentis, du coup. On va se concentrer sur cette question sensorielle. Et c'est ces moments où, en fait, on vient chercher une forte diminution de tous les stimuli externes qui permet de se recentrer un peu sur soi et de s'apaiser, cette forme d'isolement dont on parle. Ensuite, on continue dans la grotte. Là, au bout d'un certain temps, alors ça, c'est individu dépendant, il y a souvent la question des angoisses, effectivement, qui réapparaît, parce que c'est pas facile de savoir qu'il y a toute la terre au-dessus de soi et de savoir que c'est quand même un espace très contraint. Encore une fois, dans le noir, donc on n'y voit pas grand-chose, on sent plus rien. Il y a aussi les odeurs, on sent pas grand-chose dans la grotte. Et quand on sort, plus on s'approche de la sortie, et plus tout revient. Et à ce moment-là, ce qui est pour moi merveilleux, c'est notamment les odeurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même des odeurs qu'on n'imagine pas, puisqu'on les a oubliées, l'air, par exemple, l'air sent quelque chose, la petite molécule d'air, elle sent, en fait, quelque chose d'assez, je dirais, agréable, en tout cas, et chaud. Puis il y a les fougères, les plantes, les fleurs, le vent, et c'est toute cette réappropriation des odeurs, du son, des oiseaux, ou du vent sur les feuilles, et aussi de la lumière qui réapparaît, qui fait qu'on est comme heureux de sortir ou heureux de renaître à ce monde extérieur. Voilà.
Eh bien, merci pour ce voyage. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis fait en même temps embarquer là dans cette traversée. Et pour conclure peut-être un peu, ce qui, moi en tout cas, me marque, c'est ce qui peut faire refuge là dans ce moment-là. Tu le dis, il y a quelque chose, un contraste sensoriel, c'est-à-dire qu'on vient chercher autre chose, une coupure, en même temps avec une forme de retrait. Hein, quelque chose qui vient couper avec les stimuli habituels, ce qui nous entoure. Et en même temps, cette coupure, elle est nécessaire, mais elle doit être que temporaire. Donc, pour faire refuge, quelque chose qui peut nous isoler, il faut que ce soit temporaire. Et surtout, c'est ce retour à la vie. Et
c'est ça, c'est ces échanges, ces allers-retours et cette dialectique qui est importante et ultra nécessaire pour que ça puisse provoquer cette forme d'apaisement, en fait.
Et pas l'angoisse, du coup, de l'enfermement.
Et pas l'angoisse de l'enfermement qu'on atteint au bout d'un certain temps, effectivement.
Bon, merci Tiphaine. On s'en arrête là pour aujourd'hui et je laisse la suite.
Décollage difficile ce matin.
Green Valley vous aide à vous réveiller.
Piou ! Prêt à décoller ?
Nos cabanes. Faire des cabanes. Imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé. Trouver où atterrir, sur quel sol rééprouvé, sur quelle terre repensée, prise en pitié et en piété. Mais aussi sur quels espaces en lutte, discrets ou voyants, sur quel territoire défendu, dans la mesure même où ils sont réhabités, cultivés, imaginés, ménagés plutôt qu'aménagés. Pas pour se retirer du monde, s'enclore, s'écarter, tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent. Pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés et des temps d'un autre temps, en croyant renouer avec une innocence, une modestie, une architecture première, des fables d'enfance, des matériaux naïfs, l'ancienneté et la tendresse d'un geste qui n'inquiéterait pas l'ordre social. Mais pour leur faire face autrement, à ce monde-ci et à ce présent-là, avec leur saccage, leur rebut, mais aussi leur possibilité d'échapper. Loin du cabanon solitaire de Taureau, qui élaborait près du lac de Valden une réflexion sur les vertus d'une vie à l'écart, même si la solitude d'une aventure rendue à la nature s'y concevait comme une révolte. Faire des cabanes, au bord des villes, dans les campements, sur les landes et au cœur des villes, sur les places, dans les joies et les peurs. Sans ignorer que c'est avec le pire du monde actuel, de ses refus de séjour, de ses expulsions, de ses débris, de ses chutes parfois, que les cabanes souvent se font et qu'elles sont simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés. Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler cabanes des huttes de phrases, de papier, de pensées, d'amitié, de nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs. Surtout pas pour prendre place, se faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de place faite, de place refusée, de place prise ou à prendre. Faire des cabanes sans pour autant se contenter de peu, se résigner à une politica povera, s'accommoder des précarités de tous ordres et encore moins les enchanter, sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas. Mais pour braver ces précarités, leur opposer des conduites et des convictions. Des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent et y répliquent en réclamant très matériellement un autre monde qu'elles appellent à elles et que déjà elles prouvent. Faire des cabanes sans forcément tenir à sa cabane, tenir à sa fragilité ou la rêver en dur, installé, éternisable, mais pour élargir les formes de vie à considérer, retenter avec elle des liens, des côtoiements, des médiations, des nouages.
Et on remercie Leïla pour sa vision de ce qu'est la cabane. On va continuer par une interview de Lily et Maboulette. Mais qui sont ces drôles de personnages? Grégoire, tu les connais?
Un petit peu. En fait, par exemple, au colloque, elles ont de Valfort, elles ont parodié les intervenants.
Donc, ce sont des clowns.
Oui, voilà, ce sont des clowns, en fait. Voilà.
Et effectivement, elles ont pu intervenir entre chaque intervention durant ce colloque. Donc, on va écouter ça tout de suite.
Lily Maboulette, merci, parce que vous dites que Valvert, ça donne de l'air, mais c'est vous qui nous donnez de l'air. Et nous, on s'est bien marrés, mais du coup, c'est quoi votre refuge à vous
Nous, notre refuge, c'est le monde entier.
C'est le monde entier.
Voilà, c'est...
Comment le dire?
En fait, on part du très grand pour aller au très petit, on part du très petit pour aller au très grand.
Voilà, c'est ça.
Vous voyagez sans cesse, c'est ça?
Sans cesse, ouais.
On va dans plein de refuges différents, avec plein de thèmes différents. Pour nous, c'est des refuges.
Ouais.
C'est une manière de se réfugier, d'être contenu par une matière pour mieux l'exposer. L'exposer.
Voilà. On l'explose aussi. Hein.
Et on l'explose aussi, sans problème, tu as besoin d'exploser.
Ouais.
Ça fait exploser de rire aussi.
Voilà, c'est mieux parce que...
Ouais. Voilà. Mais bon, le rire, c'est un super refuge.
Ouais, c'est ça qu'on se demandait.
En soi, hein, c'est ça. Hein, rigoler un bon coup, bah, c'est comme se protéger du malheur, hein, oui. D'une certaine manière. Oui.
Et puis c'est renouveler l'énergie.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Voilà. Ça fait bouger l'intérieur, en fait.
Voilà.
Voilà, ça nous fait nous promener dans notre propre refuge. Ouais.
Et alors, quand on a des tensions et tout ça, on rigole un bon coup. Ça. Ça détend les zygomatiques et le ventre.
Tout, en fait. C'est oui. Tout. Vous avez d'autres questions?
Et ben moi, c'était la principale, celle-ci. Oui. Merci beaucoup.
Ben avec plaisir. Hein,
c'est super.
Ouais.
Ah, franchement, c'est magnifique.
C'est drôle parce que j'ai envie de les applaudir alors qu'elles ne sont pas là. Ça m'a donné le sourire. Et on continue avec une autre interview d'une rabbin, et c'est toi-même, Grégoire, qui a pu faire cet entretien. Alors moi, j'ai juste une toute petite question. C'est quoi tes motivations à ce moment-là?
Ben, j'ai interviewé Sophie Bismuth, qui est une rabbin, parce que je m'interroge pas mal sur la spiritualité. Et voilà, je lui ai posé quelques questions.
Ok, eh ben, on écoute ça.
Ok. Bonjour, le véritable refuge n'est-il pas Dieu lui-même?
Oui, on peut tout à fait le dire, et on le dit d'ailleurs. C'est une expression, par exemple, dans les psaumes, le psalmiste, il parle souvent, quand on parle de Dieu, on dit « Dieu est mon refuge, ma citadelle, le roc sur lequel je peux m'appuyer ». Donc il y a vraiment cette idée que oui, cette confiance en Dieu, elle s'exprime comme ça. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, je vais vous citer un tout petit verset qui dit « Adonai Eliv Eloira, Dieu est avec moi, je ne crains rien ». Cette confiance que toujours, quoi qu'il arrive, il y a toujours, l'amour de Dieu est toujours avec nous. Dieu nous aime inconditionnellement. Comme on a souvent cette image de, on dit par exemple dans nos, il y a un grand chant qu'on chante au moment des grandes fêtes, Avinu Malkenu, notre Père, Malkenu notre Roi. Donc Dieu est notre souverain, hein, mais il est aussi notre Père. Nous avons une relation d'amour de parent à enfant. Il y a beaucoup cette image là. Donc oui, Dieu est mon refuge. Dieu c'est Dieu qui, chaque matin, je peux le dire, je peux le chanter, voilà. Dieu est avec moi, je ne crains rien.
Est-ce que vous avez choisi un asile psychiatrique, enfin un hôpital psychiatrique, parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des malades qui ont des véritables expériences mystiques, pas tous les malades, bien sûr, mais est-ce que vous pensez à l'authenticité de certaines expériences mystiques qui sont classées comme des fous par la psychiatrie, quoi. Voilà, c'est pas du personnel. Alors, mais...
Je suis là parce qu'on m'y a invité. Ouais. Mais je crois vraiment que oui, on a. J'ai envie de dire, il y a une forme d'ouverture quand on parle de la. On parle de la folie, par exemple. Je crois qu'on a tous, en fait, on a tous un petit grain de folie. Hein. Il y a tout en nous quelque chose. On a une part rationnelle. Mais on a aussi en nous quelque chose, une forme de grande liberté.
Par exemple, moi j'ai eu beaucoup d'expériences mystiques et une fois je fermais les yeux, je remontais mes expériences mystiques alors que je prenais tout plein de cachets. D'un coup, j'ai vu les lettres A, B, Y, plus loin G, A, V, R, A, alors que j'ai aucune notion d'hébreu. Et je suis allé voir le rabbin le plus proche de ma synagogue, de la synagogue le plus proche de chez moi. Il m'a dit Abi ça veut dire père dans le sens Dieu, et Gavra ça veut dire Dieu donne la force.
Oui. Absolument.
J'avais aucune notion d'hébreu, vous voyez,
c'est
genre...
Vous savez, les choses comme ça, ouais. C'est la question du sens qu'on y donne. Face à n'importe quelle situation, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, exactement.
Eh ben, dis donc, sympa comme question. On poursuit. Alors, on va poursuivre avec d'autres questions, et notamment à l'équipe de la sociothérapie. Donc, pour remettre un peu le contexte, pour ce colloque, a été invité tous les services de l'hôpital de créer des cabanes. Et la sociothérapie, ils ne font jamais les choses à moitié. Ils ont décidé de créer une vraie grosse cabane qui est encore là, actuellement, devant la salle de spectacle. Donc, on peut... inviter du monde à aller la voir encore. T'as pu faire un tour, toi, Grégoire?
Ouais, la cabane principale, je l'ai vue. Ouais. Enfin, celle qui est devant la salle de spectacle, ouais, je l'ai vue.
Mais en tout cas, on a vu un petit peu le début de la construction, en tout cas c'était en cours. Et donc on a posé quelques questions, notamment à Philippe, un des infirmiers de la sociothérapie. On vous laisse écouter.
Secret, c'est un mouvement qui se crée en permanence. Si je faisais une moyenne, je pense qu'on est au moins aux alentours de 4-5 patients à chaque moment d'activité. D'accord ? C'est une moyenne. Parfois on va être 2 et parfois on sera 10. D'accord ? Voilà. Et d'ailleurs, en fait, on ne cherche pas, nous, à recruter un nombre de personnes bien défini, mais plutôt à accepter et à être ouvert à tout, quoi. Y compris s'il n'y a qu'une personne, l'activité se fait. D'accord ? Voilà. Okay.
D'accord. Et in fine, combien de personnes tu pourras accueillir la cabane ? Le projet, c'est en fait de...
Alors, on parle un peu du projet ? Vous voulez qu'on parle un petit peu du projet ? Parlons du projet. Le projet, c'est qu'il va y avoir un colloque, Valfort, qui est centré un petit peu autour de la chambre d'isolement, les moyens de tout notre travail là, que nous avons fait sur Valvert par rapport à cette idée de réduction de la chambre d'isolement. Et la veille du colloque de Valfort, il se crée un mouvement qui est assez sympathique, qui va être un mouvement sur l'apaisement. Comment on voit l'apaisement ? Et donc, ce sera le 11 juin. Et ce 11 juin, en fait, il y aura donc des stands qui vont proposer diverses activités d'apaisement. La cabane, donc, du coup, a tout son sens, puisqu'elle va accueillir, donc, avec des tapis au sol, des coussins, une musique douce, une lumière d'ambiance, elle va accueillir un petit peu les patients qui veulent un peu s'apaiser, donc autour de la musique, autour de la parole douce, tous ces éléments-là. Voilà. Ça ne sera qu'un lieu parmi les autres, parce qu'il y aura beaucoup de stands ce jour-là. Voilà. Donc, elle a déjà bien son intérêt ce 11 juin, pour ce mouvement d'apaisement. Et ensuite, elle aura aussi, pour le lendemain, donc pour Valfort, elle aura sa présence, puisque le message de Valfort a été, et on termine avec ça, c'était « Fais ta cabane ». Donc en fait, chaque pavillon, chaque unité, y compris les extras à l'extérieur de l'hôpital, ont créé des cabanes. Et donc on va se retrouver avec des cabanes un petit peu partout, alors plus ou moins grosses, bien sûr. Nous avons voulu, nous, la sociothérapie, en faire une grosse, parce que nous sommes un lieu d'accueil, et donc on ne pouvait pas accueillir dans une niche à oiseaux, quoi. Hein, voilà. Voilà.
Okay. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la géographie du lieu, où sera-t-elle située ? Pourquoi avoir choisi cet endroit-là ?
Alors, on revient sur Valfort. En fait, Valfort, ça va se faire donc, dans la salle de cinéma, salle de spectacle, qui permet aussi donc, de faire une salle d'accueil pour les conférences, choses comme ça, qui se situe juste en face de là où est fait la cabane. Il y a un petit parc central. Autour de la direction de la salle de cinéma, de la salle de sport. Et donc, ça se situera essentiellement à cet endroit-là. Voilà. Et donc, elle est tout à fait en face de l'entrée de la salle de cinéma, de la salle de spectacle, tout simplement. Et voilà.
D'accord. Voilà. Okay. Et donc, pour toi, quelle est la symbolique de la cabane ? Peut-être au-delà du refuge, est-ce que tu vois une autre symbolique ou est-ce que... Le refuge est déjà...
Alors, oui, effectivement, je crois que le mot refuge est exactement bien ouais. Situé. Voilà. Ensuite, effectivement, c'est rajouter cette idée comme ça qu'elle pouvait être un lieu d'accueil et d'apaisement. Et personnellement, au moment où on a dit effectivement qu'on pouvait créer cet espace d'apaisement pour cette journée du 11, elle a pris tout son sens pour moi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au départ, le message « Fais ta cabane » de Valfort, pour un soignant lambda comme moi, je ne l'ai pas tout à fait saisi, si ce n'est qu'en fait, en règle générale, on se saisit un petit peu de tout pour créer une activité avec les patients. Donc ça pas, la finalité n'a pas d'intérêt première, d'accord ? Donc ça reste quand même une activité pour les patients, et c'est ces moments d'activité qui sont très très forts pour nous. Mais là, du coup, effectivement, tu as raison de dire symbolique, parce que du coup, la symbolique de la cabane, à ce moment-là, elle a pris un sens encore bien plus important. Refuge et lieu d'apaisement pour le 11 juin, je crois. On l'espère, on le souhaite.
Sur le haut, viens regarde le bas.
Donc on peut faire un 110.
Pardon. Viens regarde le bas.
On peut faire un 110, 120.
Paris ne s'est pas monté en un jour.
Max 120.
La thématique du refuge, c'est le bien-être de soi.
et de se retrouver.
Quand la cabane sera prête, qu'est-ce que vous comptez en faire ?
C'est à l'occasion d'une activité au sein de du centre Valvert pour les 50 ans d'ouverture.
Est-ce que c'est un objet évolutif, collaboratif ?
Non, nous l'enlèverons à la fin de la journée. Voilà.
D'accord. Comment avez-vous réfléchi à l'utilisation des matériaux et la question de la taille ?
Eh bien, nous y avons réfléchi toute une équipe. Avec toute une équipe.
On n'a pas peur des mots.
Et on va faire des mots, c'est la charpente.
Il sera livré le 11.
Il sera livré le 11, tu te dis, ben oui. Ah oui, mais on va faire des mots, écoute. De la cabane idéale, en fait, c'est comme ça. Hein. On l'a baptisé.
Green Valley, la radio qui vous fait décoller.
Green Valley, la radio qui vous fait décoller. Décollage.
Avion.
Voyage.
Chanson.
Page.
Carillon.
Pointage.
Potiron.
Grignotage.
Question.
Bruitage.
Pantalon.
Rage.
Non.
Je voulais offrir mon cœur au monde. On n'a fait que me dire ferme-la. File dans le rang vide, fille. Et les rois seront fiers de toi. Au-delà c'est le grand vide, le grand saut ou le grand huit. Ouais ton malaise grandira. Alors mieux vaut qu'on se serve de toi. Moi j'ai filé dans le vent. Aussi vite que j'ai pu j'ai filé. Entre les gouttes de pluie et les mailles du filet. Inspiré par l'étoile filante, je suis ma trajectoire. Même si tous te tournent le dos, moi je resterai avec toi. À des années-lumière du showbiz, après moi mes rimes resteront de la race de ceux et celles qui ne retournent pas leur veste, non. Le cœur qui bat face à un cynisme qui empeste le monde. Et moi je parle de lumière ayant à peine sorti la tête de l'ombre. On a la lettre, le nombre et le courage de notre amour. J'ai grandi dans la merde, je me fous d'être traîné dans la boue. Je me sens pas chez moi ici depuis le bas âge, j'avoue. Un regard vers le ciel au lieu de me renfermer sur moi, je l'ouvre, je veux. Tu connais pas les fardeaux que je traîne et tous les témoins ne sont plus. Une larme éternelle aux gens que j'aime qui sont partis sans un adieu. La faucheuse ne prévient jamais. Jamais il y aura de pull-up trop mal pour zapper. Que la mort nous séparera un jour ou l'autre. Comme au bord du vide, le vide de mes absents. Un sourire de gratitude pour une vie aux milliers d'accents. Aux milliers de couleurs de sourire malgré les apps et les excès. Le manque d'accès aujourd'hui mes rimes rassemblent. Mais ne me fiche pas, confonds pas l'art et l'artiste. Ne spécule plus si tu me croises au bord de la crise. Si tu devines au fond de mes yeux de la tristesse. Bien sûr que la notoriété me renverra toujours un petit stress. Comment faire confiance quand même les miens m'ont trahi. Meurtri dans mes entrailles, je suis ailleurs comme ceux qui sont partis. Parfois je me sens seul comme un animal de foire. Alors je parle aux anges le soir pour pas que les vieilles douleurs m'envahissent. Je veux.
On peut se sentir agressé, du moins dérangé par le monde extérieur. Mais on ne se protège pas de Dieu. On trouve refuge auprès de Dieu. Dans un asile, on ne sait pas si on trouve refuge contre soi-même ou si le monde extérieur se protège de la folie, une folie qui peut contaminer la société. Dans un refuge, seul avec soi, on est à l'abri du regard des autres. On est seul face à ses propres codes. Les codes de la société extérieure n'existent plus. Il existe des refuges où on est seul et des refuges pour plusieurs. Par exemple, telle ou telle communauté est persécutée par d'autres. Mais l'être humain est en général grégaire. Un refuge trop prolongé et la folie vient pointer son nez. Et là, le refuge devient une prison, ou pire, une salle de torture, où bourreaux et victimes ne forment qu'un. Dans un refuge, on est libre des autres, mais emprisonné dans le groupe ou emprisonné avec soi. À titre personnel, pour ne pas me sentir envahi par les autres, dans un monde trop grégaire, ou à l'inverse rongé par l'ennui, ou afin de ne pas sombrer dans ma propre folie, un juste équilibre s'impose entre les autres et la solitude. Mais où qu'on soit, on n'est pas seul. Voilà ce que je retiens de mon isolement. Le refuge peut être physique, mais on n'est pas seul, on est avec Dieu. Dieu s'est révélé à moi lorsque j'étais seul. Je veux dire non entouré par d'autres êtres humains. Mais aussi l'oiseau des hiéroglyphes égyptiens venait chaque nuit me réveiller. J'étais seul dans la maison à me rendre compte qu'il était là. Et les montres et les horloges de la maison se figeaient quand il venait. C'était sur le toit. J'étais soudainement paralysé. Mon cœur se mettait à battre très fort. Je le voyais chaque nuit, ou alors pour me réfugier des autres, je me planquais dans une forêt pour méditer. Et là, il venait me voir en plein jour. Là où je ressens plus la présence de Dieu, c'est lorsque je suis seul en général, à croire que l'être humain s'entoure d'autres, le monde appelant le monde pour oublier Dieu. Dans ce monde, je n'ai que très rarement l'impression d'être en paix. Je sais que mon véritable lieu de refuge est au plus près de Dieu. Mon véritable refuge est ailleurs. En tant que croyant, ce n'est pas moi qui compte le plus pour moi, mais Dieu lui-même. Voilà mon refuge à l'abri de tout, à l'abri de moi, des autres et de lui-même. S'oublier soi-même, oublier de se voir soi-même dans les yeux des autres, il faut peut-être s'oublier soi-même pour pouvoir regarder Dieu droit dans les yeux. Il faut ne plus être humain.
On poursuit cette émission du jour, cette émission refuge de l'après-midi sur Green Valley. On va parler de son, d'apaisement, d'espace d'apaisement. Est-ce que ce son... Alors je présente peut-être qui est autour de la table pour évoquer tout cela. Isota, artiste sonore, membre de Nunc. Moi-même, Emmanuel, membre de Nunc.
Bonjour.
Karine Delanoé, tu es chercheuse en design et chercheuse en projet. Tu travailles principalement sur des projets culturels qui ont à voir aussi avec la santé.
Tout à fait, bonjour.
Mathieu, tout à l'heure, quand je t'ai demandé comment te présenter, tu m'as dit tu peux dire que tes passions.
D'Aubignane, en fait, à Aubagne, voilà. À l'hôpital. Bonjour à tous.
Ouais. Et Colin, qui est infirmier.
Oui, c'est ça. Bonjour.
À l'hôpital de jour. Est-ce que ce son que vous venez d'entendre, est-ce qu'il est apaisant ou pas? Est-ce qu'il est flippant ou non? C'est son nom. Et ça fait partie des sons, Karine, que vous avez écoutés tous ensemble, tous et toutes ensemble dans différents services à Valvert pour imaginer ce que serait un espace d'apaisement. Et dans cet espace d'apaisement, le son, il est un peu au centre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un espace d'apaisement et ce que pourrait être un espace d'apaisement à Valvert et comment vous avez travaillé.
D'accord. Alors, je pense qu'on ne peut pas forcément définir un espace d'apaisement. Et en réalité, ce qui est peut-être le plus intéressant dans ces espaces d'apaisement, c'est juste de pouvoir les faire ensemble et que ce soit un sujet posé pour les soignants, les soignés, et qu'il y ait une discussion autour de ça. Qui en général permet de parler de bien d'autres choses dans le service. On est très bizarrement à l'hôpital psychiatrique alors qu'on a des gens qui sont dans des formes d'hypersensibilité, dans un impensé sensoriel très souvent. Et donc cette question de l'espace d'apaisement, elle permet aussi de ramener cette dimension du sensoriel dans la relation, dans le soin, dans l'apaisement. Peut-être aussi ce que je peux dire, c'est que tout a démarré pour moi, en tout cas, comme réflexion et comme action sur ces espaces d'apaisement par la demande d'un service qui est à Paris et qui est un service de crise, un service aigu, de 10 lits, dont 2 chambres d'isolement. Et l'équipe s'est mise à avoir vraiment un questionnement sur, mais peut-être c'est beaucoup, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 2 chambres d'isolement? Comment on peut peut-être passer à autre chose? Et donc, ils nous ont demandé, nous, on était une petite équipe de designers intégrés à l'hôpital, un petit laboratoire dans l'hôpital sur culture et design. Et donc, l'équipe nous a demandé de les accompagner pour transformer une chambre d'isolement en espace d'apaisement. Et de travailler en fait sur cette transformation d'un lieu qui était quand même un lieu très chargé vers cette projection, cette idée d'un lieu léger en fait, d'un lieu qui prend soin, bah, ça a été vraiment extrêmement passionnant et sur le fond en fait et sur les formes qu'on a pu élaborer. Et ici à Valvert, on n'a pas voulu bien sûr transposer. Puisque, encore une fois, ce qui a été le plus intéressant, c'est le travail qui a été fait avec les patients et avec les soignants, où il y a eu beaucoup de surprises, notamment pour les soignants. Donc, c'est aussi un travail qui permet de déconstruire beaucoup de représentations. Et donc, à Valvert, on a proposé, quand je dis « on », je suis avec deux collègues designers, Sophie Larger et Marie Coirier, de faire ce travail vraiment d'accompagnement, d'atelier, de co-conception, d'un espace d'apaisement pour chaque pavillon.
Et dans ces ateliers, justement, vous avez écouté des éléments sonores, celui qu'on vient d'entendre. Enfin, ça m'amusait de commencer par ça, parce qu'a priori, il est flippant, ce son. Et tu me disais en préparant cette émission que le son était au centre de ce qui peut favoriser de l'apaisement.
Oui, alors c'est vrai que ce son est un peu contre-intuitif par rapport à l'apaisement. En même temps, on a tous des représentations sur ce que c'est un son apaisant, mais je pense que si on demande vraiment à chacun c'est quoi un son apaisant pour toi, à mon avis, ça va être extrêmement diversifié. Donc on a aussi un peu le mainstream de la musique, de relaxation, que par exemple, que personnellement je trouve insupportable, mais il y en a d'autres qui adorent, enfin voilà. Donc en réalité, on s'est rendu compte en travaillant justement sur cette question du son et de l'apaisement que c'était impossible de dire qu'il y avait un son particulier qui était apaisant ou une musique en particulier qui était universellement apaisante et que ce qui était peut-être le plus apaisant, c'était que chacun puisse choisir sa musique. On en est arrivé à cette... ça fait un peu la palissade, mais voilà, on est arrivé à ce constat simple. Et donc, de trouver des dispositifs, et ce n'est pas facile à l'hôpital, on a mis beaucoup de temps à trouver des solutions à tout, surtout dans un service aigu, pour que les patients ils puissent avoir une interface, un accès à une plateforme, choisir leur musique, que ce soit sécurisé sur le plan informatique, sur le plan des données. Et en même temps, aussi, on a beaucoup travaillé sur la qualité du son. De la diffusion sonore, parce que toute la revue de littérature qu'on a fait sur son, psychologie, apaisement montrait qu'en fait le son c'est une enveloppe psychique et que c'est aussi pour ça que c'est en fait apaisant quoi, c'est que ça a vraiment cette fonction d'enveloppement.
Oui, non, c'est très intéressant ce travail sur le son et je partage cette idée aussi de qu'il n'existe pas un son qui fasse du bien a priori, mais que c'est par le choix qu'on fait d'écouter quelque chose à un moment donné qu'on peut peut-être se sentir mieux. Et je voulais en savoir un peu plus sur le dispositif sonore que vous avez mis en place. Voilà.
Alors peut-être juste sur cette playlist, donc en fait c'est un designer sonore qui est intervenu pour cet atelier qui s'appelle Victor Audouze et il a plutôt voulu faire une playlist qui permettait de discuter autour des sons et donc il a choisi des sons très contrastés, très différents, donc de la musique concrète, des paysages sonores, de la musique au piano, enfin voilà, il a un peu ouvert tous les chakras pour savoir comment les gens réagissaient au son, d'où des fois des sons un peu contre-intuitifs. Et on a eu aussi beaucoup le cas dans les différentes expériences autour des espaces d'apaisement de patients qui demandaient des musiques très rock, très hip-hop, et que c'est ça qui leur faisait du bien et qui les apaisait. Donc le dispositif qu'on a mis en place à l'hôpital Sainte-Anne, et qu'on va probablement recommander à Valvert, mais sur un mode plus simple, parce que c'était quand même compliqué, c'est en fait une tablette qui est vraiment incrustée dans le mur, donc du coup qui est reliée, qui est câblée, donc pas besoin de la recharger, parce que ça c'était un problème, qui ne peut pas s'enlever, donc sinon les infirmiers couraient après la tablette aussi toute la journée. Et on a fait développer spécifiquement par un développeur aussi le fait de pouvoir avoir l'interface de Spotify sans pouvoir aller sur Facebook, Instagram, etc. Parce que normalement, quand on va sur Spotify, on peut aller sur tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'était vraiment une demande très claire des soignants. Et puis, on a fait installer des enceintes de très bonne qualité, un peu miniaturisées, dans les murs. Et on a aussi recommandé tout un traitement acoustique de l'espace.
Et par curiosité, combien d'enceintes recouvraient l'espace ?
Là, on a fait simple parce que c'était des petits espaces. Hein, c'est de 8 à 12 mètres carrés globalement. Et donc, on en a mis deux. Mais on pourrait en mettre plus.
Mathieu, quand tu entends tout ce qu'on vient de traverser, là, comment ça te parle ? Une chambre d'isolement qui possiblement est transformée en espace d'apaisement, par exemple.
Pour moi, je me demande si ce n'est pas une expérience pour des singes, parce que finalement, ça reste une chambre d'isolement, donc on rajoute de la musique, mais je ne suis pas sûr du résultat. Après, la démarche peut être intéressante si elle est pensée avec le patient avant et qu'il souhaite réellement se mettre... aller en chambre d'isolement, mais moi, mon expérience à la chambre d'isolement, c'était plutôt, on m'a balancé là-dedans pour voir à qui on avait affaire, et puis on vous regarde par la fenêtre pour voir comment vous réagissez. C'était pas très productif pour moi, c'était plutôt traumatisant qu'autre chose, donc je suis assez sceptique.
Oui, mais là, justement, quand t'entends espace d'apaisement, comment ça résonne pour toi ? Est-ce que, justement, ça serait pas l'invention d'un lieu qui permettrait d'éviter l'isolement ?
Oui, mais tant que la porte est fermée, c'est compliqué, quoi. Pour faire confiance à l'équipe médicale, après, pourquoi on est enfermé ? Alors, c'est ça le problème, en fait. Même si on passe de la musique...
Pardon, Colin, comment toi, tu es infirmier, l'isolement est quelque chose que tu as traversé dans ta carrière, que tu vis moins, si j'ai bien compris, dans ton quotidien. Est-ce que c'est un horizon qui te semble constructif ? Enfin, est-ce que c'est une fenêtre possible, cet espace d'apaisement ?
Alors du coup, moi je vais rejoindre Mathieu sur le côté traumatisant de l'isolement. Effectivement, actuellement dans ma profession, je ne le vis plus et... je ne m'en porte que mieux. Ça grignote l'isolement, les portes fermées, le fait de refermer la porte sur un patient dont on prend soin, c'est très coûteux. Et c'est coûteux aussi de voir l'effet que ça a. Mathieu n'a pas été isolé depuis très longtemps et ça reste quand même un fait très marquant. Du coup, c'est toujours douloureux à entendre en fait. J'entends cette question du son qui peut être apaisant, etc. Je me souviens que j'ai travaillé dans des unités où on se posait la question de mettre un poste radio. Sur Valvert, entre autres, il y avait un service qui le faisait tant qu'ils avaient une seule chambre d'isolement. Puis tout à coup, ils ont eu deux chambres d'isolement. Et en fait, c'était un vrai problème parce que, du coup, qui choisissait de ce qu'on écoutait ? Et le problème de la radio, c'est que parfois, ça fait délirer. Du coup, c'était très contre-productif. Donc c'est vrai que j'aime bien l'idée que ce soit des playlists un petit peu, j'ai envie de dire cadrées, mais que ce soit plutôt des sons que le patient puisse choisir ce qu'il écoute, mais que ce soit pas trop des pousses au délire, parce que c'est une des raisons qui fait qu'on se retrouve en chambre d'isolement, c'est la perte de contact avec la réalité, et du coup l'idée c'est de diminuer les stimuli. En tout cas c'est comme ça qu'on défend cette pratique. Je sais pas si elle est tout à fait défendable, mais... c'est une autre question. Et donc, je rejoins Mathieu sur la question de la porte fermée, en fait. Ces lieux d'apaisement, ils ont une porte fermée ou ouverte ?
Alors, ces lieux d'apaisement n'ont absolument pas de porte fermée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de charte éthique, quand même, sur laquelle ça repose, qui n'est pas forcément négociable, et dont le grand 1 de la charte, c'est que la porte n'est jamais fermée. Elle peut être fermée de l'intérieur si le patient souhaite être tranquille, mais jamais, jamais de l'extérieur. Donc, en fait, nous, on a aussi essayé de penser ces lieux à partir de la dialectique entre hostilité et hospitalité. Et on s'est dit que la chambre d'isolement était quand même un espace d'hostilité, ne serait-ce que parce que quand on veut faire hospitalité, il y a une réciprocité qui fait que la personne a le choix d'entrer ou de ne pas entrer. Donc, c'est incompatible avec la chambre d'isolement où le patient n'a pas forcément le choix. Et donc cet espace d'apaisement, il essaye de faire basculer vraiment un lieu quand même vécu vraiment de manière très hostile par la plupart des patients et par les professionnels aussi, vers un espace d'hospitalité. Et après aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut à un moment donné c'est un espace ouvert, c'est un espace qui n'est pas clos, c'est un espace où on peut choisir la température de sa lumière, où on peut choisir effectivement d'écouter de la musique ou pas, quelle musique, avec qui. où on a aussi une liberté corporelle. On peut être au sol, on peut être un peu moins au sol, ce qui est aussi à l'inverse de la chambre d'isolement qui contraint en fait sur le plan corporel. Donc où il y a aussi une, on a pensé aussi une atmosphère avec les couleurs, avec la lumière qui soit plus douce et assez en rupture, on va dire, avec l'esthétique un peu habituelle du service. Et l'idée, ce serait aussi que cet espace puisse déborder finalement sur le service et qu'on pense la spatialisation et l'aménagement des services sur le mode de ménager, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de ménager pour autrui, d'accueillir, d'être dans l'attention et la considération pour les gens. Et finalement, ce qui nous a été dit aussi sur ces espaces d'apaisement, c'est que finalement, elles contenaient une forme d'intention soignante, d'intention bienveillante qui était ressentie en fait par les patients. Donc après, et bien, toute la question, c'est de savoir est-ce que ça peut remplacer la chambre d'isolement, ce qu'on souhaite tous, mais je pense que la question de la chambre d'isolement, malheureusement, elle agrège d'autres complications, enfin, d'autres, des gens qui la défendent, la question de la sécurité, le droit. Mais en tout cas, elle a été un peu pensée au moins pour être une forme de prévention et, si possible, un jour, une alternative.
En tous les cas, l'espace d'apaisement, il s'inscrit dans un cadre légal, c'est une recommandation de la Haute Autorité de la Santé. Toute la psychiatrie en France doit en tous les cas l'envisager aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, au départ, ça a été juste quelques expérimentations. Ensuite, la Haute Autorité de Santé en a fait une recommandation. Et ensuite, du jour au lendemain, comme on sait faire, tout à coup, c'est devenu une réglementation. Okay. Donc aujourd'hui, tous les hôpitaux psychiatriques doivent doter les services qui accueillent des personnes en soins sans consentement d'un espace d'apaisement. Et c'est vrai que ce que je te disais, c'est que ce n'était pas forcément une bonne chose que ce soit devenu si brutalement comme ça, réglementaire, parce que ça ne laisse plus le temps à la réflexion, au processus, à l'appropriation en fait de cet espace. Mais bon, en même temps, ça permet peut-être de le déployer plus vite.
Colin, Mathieu, vous voulez réagir ?
Oui, moi, j'aurais bien une réaction à cette question de l'obligation réglementaire, parce qu'il y a une autre réglementation qui existe, c'est que désormais, pour que les hôpitaux psychiatriques publics aient l'agrément de recevoir des patients hospitalisés sous contrainte, ils ont l'obligation d'avoir des chambres d'isolement. C'est-à-dire que Valvert, par exemple, quand Valvert est né, il n'y avait pas de chambre d'isolement à Valvert. Valvert a la spécificité d'avoir que des unités ouvertes, ce qui est pas habituel dans tous les hôpitaux psychiatriques. Hein. J'en ai traversé 3 autres et la plupart des unités étaient fermées. Et il y a un autre hôpital qui est un petit peu village gaulois dans le même sens, c'est l'hôpital de la Ragne, qui n'avait pas de chambre d'isolement jusqu'à maintenant. Et ils vont devoir en mettre dans leur service pour pouvoir continuer à être un hôpital psychiatrique. Donc c'est vrai que c'est très paradoxal. Et c'est la question des chambres d'isolement où en fait, vous parliez d'un lieu qui fait soin. Dans les chambres d'isolement, ceux qui font le soin, c'est les gens qui y interviennent, donc majoritairement les infirmiers. Et c'est très délicat parce que le lieu ne fait pas soin. Le fait d'enfermer les gens, c'est pas une dynamique soignante, en fait. Et du coup, ça nécessite de compenser par beaucoup d'humanité.
Oui, non, mais ce qui me fait réfléchir, c'est vraiment cette idée d'amener des projets en psychiatrie où on puisse se concerter avec les personnes qui fréquentent les lieux et essayer de développer une réflexion commune. Parce que justement, voilà, il y a pas mal de règles et on sait qu'il y a aussi des intentions de pouvoir, par exemple, je pense à la notion d'immersion qui est très à la mode aujourd'hui et les espaces d'apaisement, ils pourraient aller contribuer à travailler sur, à rechercher quels sont les facteurs qui nous amènent en immersion, etc. Mais je pense que la priorité en psychiatrie, c'est de faire, comme vous avez dit au début, de faire avec les autres, de voir quelles sont les réflexions. Et alors peut-être l'espace d'apaisement, en effet, du moment qu'il y a l'obligation d'avoir une chambre d'isolement, c'est presque absurde de le voir dans cette optique-là. Et en même temps, si ces espaces peuvent amener des réflexions partagées, c'est bienvenu.
Merci à toutes et tous. On se quitte avec un autre son qui était sur la playlist du designer sonore avec lequel vous avez travaillé.
Si j'imagine un refuge, je pense à un endroit fermé avec au moins une ouverture pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Dans cette perspective, on peut penser n'importe quel contenant, boîte, objet, concave, comme un potentiel micro-refuge à explorer. Il suffit alors, en le tenant entre les mains, de créer du mouvement pour l'entendre résonner. Chaque objet et chaque main d'instrumentiste font sonner les refuges différemment. La résonance serait comme une sorte de lumière qui fait apparaître la particularité sonore de chaque refuge. Bien sûr, les refuges ne sont pas que des lieux fermés, mais ils ont peut-être tous une couleur qui leur est propre.
Toc.
Horoscope spécial psychiatrie déjantée, où chaque signe zodiacal prend un ticket d'attente à l'asile cosmique. Attention, les diagnostics sont complètement perchés.
Bélier, syndrome du mur, foncé dedans, impulsif et toujours prêt à jouer les cascadeurs du bocal. Le bélier n'a pas peur, surtout pas de ses propres pensées explosives. Médication proposée, 3 heures de boxe et un casque en mousse.
Taureau, toc, tendresse obsédante compulsive par la croissance des plantes. Le taureau parle à ses plantes, dort avec ses coussins et fait des crises si on lui mange son dernier carré de chocolat. Isolement sensoriel avec playlist des chants, de chants, des vaches et de la nature.
Gémeaux, double trouble dissociatif bavard. Deux personnalités ? Non, 12 ! Et toutes parlent en même temps. On hésite entre la camisole de groupe ou leur donner un micro pour les one-man show.
Cancer, hyper empathique, chronique. Tous vos amis débarquent avec des bagages émotionnels remplis de soucis. Passez votre journée avec ceux qui n'osaient pas leur demander de partir. Tout doux, taille humaine, recommandé par l'équipe soignante.
Lion, trouble de la mégalomanie, rayonnante aiguë. On sait que vous êtes la star et que vous pensez que la Terre tourne autour de vous. Pourtant, vous avez raté tous les castings. Remplacez votre trône par une chaise en plastique.
Vierge, trouble du sommeil intense. Vous vous levez le matin pour aller travailler et vous vous rendez compte que c'est le week-end. Cure de sommeil prescrit. Sieste 5 fois par jour.
Balance, indécision pathologique chronique. Vous passez votre temps à hésiter et tes gants, chemises ou t-shirts, thé ou café dehors ou dedans. Le psy vous tend une pièce de 50 centimes, l'indication médicale pile ou face.
Scorpion, paranoïa affective, votre moitié ne répond pas à vos appels. Du calme, elle n'a juste plus de batterie. N'hésitez pas à vous allonger sur le divan, la psychologue vous attend.
Sagittaire, maniaquerie intense. Arrêtez de trier vos médicaments par ordre alphabétique, de ranger tout ce qui traîne, de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Le médecin recommande de ne pas refaire son lit le matin. À midi, ne pas débarrasser la table. Et le soir, on s'endort devant la télé.
Capricorne, trouble obsessionnel, capricieux. Vous préférez être au travail que d'être en vacances. N'aime pas les imprévus, sauf les braille-doums programmés. Le médecin vous force à ne rien faire, go pour café clope 36.
Poisson, fuite psychiatrique aquatique. À force d'être sous l'eau, vous finissez dans les étoiles. Vous flottez dans ce monde céleste. Revenez sur terre, mais n'oubliez pas la bouée au risque de vous noyer.
Verseau, délire visionnaire contagieux. Si vous voulez des idées, vous pouvez le consulter. Il va plus vite que ChatGPT. Même pas besoin de passer par Doctolib.
Vos astrologues bidons vous remercient pour votre écoute et vous disent à bientôt.
Green Valley, c'est pas la radio du voisin.
Alors vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé des affiches toutes les couleurs qui émaillaient les murs de l'hôpital. Ces affiches vous invitant à laisser des messages sur un répondeur qui ne fonctionnait pas. Très bonne nouvelle, il fonctionne et l'un, ou plutôt l'une d'entre vous, a réussi à y laisser un message qu'on écoute tout de suite.
À la piscine. On va pas faire de la tête. 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 parti. Là, l'instinct de survie, maintenant qu'il doit parler.
Ouais, c'est exactement ça, Justine. L'instinct de survie pour Carlos Alcaraz.
Après ce son réalisé par Mathieu, on revient donc sur le plateau de Green Valley, où je suis là avec Mathieu. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez, où est-ce que vous avez enregistré ce son ?
Ah, j'ai enregistré ce son dans ma cabane, qui fait refuge pour moi, où j'habite depuis 2 ans environ. Et c'est à flanc de colline autour d'Aubagne. Et c'est assez spartiate, puisque il est composé de tentes et des bâches pour protéger des intempéries, et puis du mistral.
Donc. D'accord, et c'est un peu le pourquoi j'avais eu très envie de t'interviewer, moi, pour cette émission qu'avait pour Thème le Refuge. Parce qu'on se connaît par ailleurs, puisque je suis infirmier dans l'hôpital de jour où tu viens régulièrement, et j'avais notion que tu vivais dans ce que tu appelles une cabane. Et du coup, c'est ton refuge, mais ma question, c'est un petit peu pourquoi avoir fait ce choix ?
Bonne question. C'était à la base, j'ai construit en 2019, c'était plus dans un but de survie, parce que j'étais au RSA à la base, à l'époque, et puis donc je me cherchais un endroit pour vivre, et puis j'ai rencontré quelqu'un. Qui vivait comme ça aussi dans un parc, et je me suis dit pourquoi pas, ça fait un côté un peu aventurier. J'avais l'impression d'être en trek un peu, de poser ma tente et puis de vivre comme ça sans être poursuivi par les injonctions sociales ou familiales, du boulot, métro, dodo. Donc je suis sorti un peu du cadre, et puis je me suis autorisé à sortir du cadre carrément, quoi.
Ok, donc en fait, ce choix d'abord par nécessité, il est ensuite soutenu par un sens que tu y mets, de vivre donc dans la marge.
Oui, j'assume. Bon, après, tout le monde ne sait pas que je vis dans une tente, mais oui, c'est un choix délibéré, quoi. C'est un peu ma manière de dire adieu les cons, et puis de vivre. Comme je l'entends, à mon propre rythme, sans courir à gauche, à droite, pour payer un loyer ou chercher absolument à plaire à un patron. Comme ça, j'ai tout mon temps et puis je vis à mon rythme, quoi. C'est le principal pour moi. Et puis me retrouver en paix quand je le souhaite. Je sais que j'ai mon endroit secret. Et puis, quoi.
Donc effectivement, tu disais que cette cabane fait refuge, si elle te permet de te retrouver en paix. Est-ce que tu arrives à identifier ce qui permet justement d'être en paix ?
Je dirais la proximité avec la nature, en priorité, quoi. Le son le chant des oiseaux, la distance avec la ville aussi, de se retrouver vraiment dans un côté nature, et puis... Et puis c'est un endroit que j'ai trouvé par moi-même. J'avais l'impression qu'il y avait des bonnes vibrations, en tout cas, à cet endroit-là. Donc j'ai décidé de m'implanter. Et puis, puis ça a fonctionné. J'ai très rarement été embêté par des personnes. Donc c'est vraiment isolé. Donc du coup, j'y suis retourné il y a deux ans de ça, du coup.
Et alors moi, c'est en fait, j'ai entendu parler de toi avant de te rencontrer, parce qu'évidemment, avant d'accueillir les patients sur l'hôpital de jour, il y avait des infirmiers qui te connaissaient d'avant. Moi, j'étais pas là sur ton premier passage à l'hôpital de jour, et donc ils m'ont parlé du fait que tu vivais dans les bois. J'ai trouvé ça assez fascinant parce qu'une lecture qui m'avait beaucoup touché quand j'étais adolescent, c'était Henri David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois. Je me suis demandé si tu l'avais lu.
Ah non, mais j'ai lu le Prince de Central Park. Hein. C'était un roman que j'avais lu adolescent. Un gamin qui échappait à une famille dysfonctionnelle et qui avait trouvé refuge dans un parc, à Central Park, quoi, du coup à New York.
Ok. Donc, ensuite, j'avais envie de m'attarder un peu sur le quotidien d'un habitant de la cabane. Et moi, ça me pose beaucoup de questions, entre autres tout le confort qu'on peut avoir, nous les cons qui vivons dans une maison dont on paye le loyer. Alors, moi, je trouve ça vachement pratique d'avoir un robinet ou l'eau cool, de pouvoir vider ma poubelle dans un bac que quelqu'un va venir chercher en camion. Et du coup, la question, c'est un peu vous, comment vous faites pour l'eau, pour la nourriture, pour les déchets?
Oui, bah, j'ai un bon sac de rando qui passe partout. Et puis, officiellement, je suis en randonnée. Je vais à gauche, à droite, je vais chercher mon eau. Il y a une fontaine sur le chemin. Je fais mes courses comme un citoyen lambda. Après... pour l'hygiène, bon, après, je triche un peu, vu qu'il y a une association qui aide les personnes dans la nécessité, ou les SDF, là où je peux prendre ma douche, prendre un repas, faire mes lessives et compagnie. Donc, je ne suis pas tout à fait autonome. Je fais avec les moyens du bord. Et puis ça fonctionne pas mal. Après, j'ai suffisamment de confort, j'ai un bon matelas, un bon duvet, une bonne bâche pour les orages, et puis ça va. Bon, après, c'est un peu plus compliqué l'hiver, il fait un peu froid, c'est sûr, mais le corps s'adapte, quoi. Quand il fait 12-13 degrés, on a l'impression qu'il fait chaud, avec un manteau, ça passe. Et puis, bon, bah, l'été, on suffoque un petit peu, des fois, sous la tente. Mais je suis à un endroit où il n'y a pas trop de moustiques, donc ça va, je suis pas mal.
Ok. Et vous nous en parliez tout à l'heure sur la question des visites. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie bien dans ma maison de con, c'est qu'il y a une porte qui ferme à clé. Et il y a cette espèce de crainte qu'on a un peu tous, mais qui est sans doute bien éloignée du réel, c'est celle d'avoir des voleurs, en fait.
Ah oui, bah moi j'ai une clé en bois aussi, qui ferme. Non, mais c'est un petit chemin secret que j'ai débroussaillé par moi-même. Et puis au final, j'ai pas eu de vol en fait depuis des 2 ans, j'ai pas eu de problème. Même, enfin, j'avais habité un peu aussi en 2021 et puis en 2019 quand j'ai créé la cabane. Et j'ai jamais eu de vol, des problèmes de ce genre-là, donc j'ai de la chance, je touche du bois.
Ok, et vous invitez des gens parfois chez vous?
C'est très rare, je suis un peu un grand solitaire, donc voilà, c'est mon endroit secret. Et, c'est justement l'intérêt de savoir que je ne serai pas embêté par personne. Je préfère voir les gens en ville ou chez eux. Voilà.
Et alors, tout à l'heure, vous disiez, je ne dis pas à tout le monde que je vis dans une cabane. Pourquoi?
J'aime bien maintenir les apparences. J'essaye de m'habiller proprement et puis d'avoir une hygiène correcte. Et puis, oui, je ne ressemble pas spécialement à SDF, donc... Je me dis, voilà, c'est un choix de vie. Pour moi, je ne suis pas spécialement en bas ou en haut de l'échelle. Je me situe hors cadre, quoi. J'ai assez d'estime de moi pour savoir que la valeur d'un humain équivaut à celle d'un autre. Et puis, j'ai mon estime de moi, ma propre estime. Donc, je suis un peu vacciné du regard, du jugement et toutes ces conneries qu'on trouve dans les bases énergie. Ce que je fuis, quoi. Adieu les cons.
Ok. Merci Mathieu. Est-ce que vous voudriez que nos auditeurs y retiennent quelque chose de votre expérience?
J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je pourrais dire?
Est-ce que vous le conseillerez aux autres? d'habiter dans une cabane.
Oui, je conseillerais, oui, parce que ça permet de faire le point avec soi-même, de soigner ses blessures, d'avoir un regard plus objectif sur les gens, sur la société, sur les rapports de domination, les rapports d'hypocrisie, les rapports de tout. Puis ça permet de se relaxer au rythme des saisons, au rythme de la nature, du soleil et de la lune. C'est quand même c'est un mode de vie qui est assez apaisant, je trouve. Donc on peut même faire des expériences mystiques. Ça plairait à Grégoire, ça. Et bien, des fois, je reçois via les algorithmes qui certains messages de l'univers, des choses positives. Donc je suis comblé.
Ok, on va s'arrêter là sur la cabane refuge. Et moi, il me tenait à cœur de préciser à nos auditeurs qu'en plus de vivre dans une cabane, vous aimez chanter et vous le faites très bien. Du coup, vous aviez envie d'illustrer cette interview par une chanson.
Parfaitement.
Qu'on va écouter maintenant.
Les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Qu'un refuge, tissu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler. En redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer. Abandonner tout derrière soi, pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Le cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer.
Et on remercie Mathieu pour cette superbe interprétation. Et Grégoire, on va rester dans le thème de l'amour. Qu'est-ce qui vient là tout de suite?
Eh bien, Peggy qui nous présente la chronique du cœur. Elle interviewe une certaine Anissa qui nous donne une de ses visions de l'amour.
On écoute ça.
Bonjour Anissa.
Bonjour Peggy.
Et merci de venir de bon matin nous parler d'un sujet si pas léger, si délicat, si voilà. Parlons d'amour.
Allons-y. Donc, merci de m'avoir invitée dans un premier temps. J'aurais pas pensé que j'aurais été donc invitée et que vous pensiez à moi pour ce sujet-là. Donc, merci. Donc, c'est du temps, c'est de l'organisation aussi des deux côtés. Donc, disons que le sujet du jour aujourd'hui, c'est l'amour. Et donc, le thème que je souhaitais aborder, c'est pas l'amour comme on l'entend, donc entre son conjoint et sa conjointe, ce serait plus l'amour amical, donc entre deux personnes, deux femmes, deux hommes, mais qui sont dans une relation amicale. Et je trouvais que c'était important parce que j'ai l'impression que de nos jours, on a tendance à penser que quand on parle d'amour, la seule chose qui rentre en ligne de considération, c'est l'amour entre un homme et une femme, donc qui sont dans une relation amoureuse, sauf que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Pour expliquer un petit peu, donc moi, quand j'ai été hospitalisée en 2023, j'ai été, je dirais, pas très sympa avec mes copines. J'ai été, comment dire, un peu... J'attendais beaucoup de choses d'elles, et donc j'ai été peut-être un peu, je dirais, pas méchante, mais... Mais disons que j'avais des attentes de leur part et c'était demandé ou peut-être j'attendais des choses de façon peut-être un petit peu virulente, ce qui fait que donc bon, disons que durant cette période-là où j'étais hospitalisée à Valvert, donc j'ai perdu une de mes amies qui m'a, enfin ça m'a fait beaucoup de peine. Donc je lui avais dit des choses pas très gentilles et donc par la suite donc elle avait décidé de couper les ponts avec moi. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai essayé de la recontacter, mais je me suis rendu compte qu'elle m'avait bloquée de partout.
J'ai juste une petite question. C'est une amie que vous avez depuis longtemps ?
Alors non, je l'avais rencontrée fin 2022 et on a tout de suite eu une sorte... Je ne vais pas dire que c'était un coup de foudre amical, mais c'était vraiment une personne vers qui, je dirais, les choses elles se sont passées très vite. Ou c'était peut-être une amitié qui était, comment dire, énergivore. Dans le sens où, en fait, on avait tendance à se voir tout le temps, tous les jours quasiment, de la semaine. Et moi, à l'époque, je ne travaillais pas. Et quand on se voyait, bah, ça durait des heures. Mais à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'initiative de dire « Bon, ben, il est 20h, on est ensemble depuis 14h, peut-être qu'on devrait rentrer chez nous.
» Certes.
Et donc, ce qui fait que je me suis un peu, je ne vais pas dire engouffrée dans cette amitié, mais je me suis un peu dit, bon, allons-y, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis, je m'entends très bien avec elle. Sauf que, ben, du coup, ça a duré des heures et des heures et des heures. Et que moi, de mon côté, je n'osais pas forcément lui dire, bon, ben, écoute, il est tard. Enfin, il faut que je rentre chez moi. Et j'étais un peu, je ne vais pas dire en dissonance cognitive, mais j'étais un peu en... J'avais un peu l'impression de, si je la laissais, d'avoir cette impression de l'abandonner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est... Enfin, je ne sais pas, je... Dans le sens où on était tellement, peut-être, je dirais, fusionnels dans cette amitié, que le fait de partir et de rentrer chez moi, c'était un peu comme une sorte d'abandon, parce qu'à cette époque-là, elle avait besoin... de beaucoup parler, de beaucoup, d'avoir beaucoup d'attention. Et moi, j'osais pas lui dire, écoute, on peut en parler plus tard. J'avais du mal, en fait. Ah, voilà, c'est ça le mot. J'avais beaucoup de mal à poser des limites dans cette amitié. Voilà, c'est ça le mot.
Et vous avez l'impression qu'elle, elle débordait ?
Oui. Oui, elle a débordé. Je pense qu'elle a débordé. Et en fait, elle était venue me voir donc, à deux reprises quand j'étais hospitalisée ici. Et en fait, bah, du coup, quand j'étais hospitalisée ici, je dirais pas que j'étais pas la même. J'étais peut-être un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus peut-être centrée sur moi. Et en fait, quand elle venait, bah, du coup, elle me redonnait cette charge donc, de problèmes à me parler. Enfin, inconsciemment, ça tournait pas tout le temps autour de ça. Mais en fait, moi, à ce moment-là, c'était pas ce dont j'avais besoin. Et en fait, il s'était passé un truc un jour. Donc, on était avec mon compagnon et elle. Et en fait, j'étais donc, on était au niveau du jardin près des cèdres. Et en fait, je dis bon ben écoute, faut que je rentre. J'aimerais passer du temps avec mon copain. Et maladroitement, je lui ai demandé de partir. Donc, elle a un peu mal pris. Et à la suite de ça, on a découlé donc la conversation téléphonique qu'on avait eue. Où ça s'est un peu débordé et elle a coupé court à tout, donc téléphone, elle m'a, sans aucun mot, elle m'a bloquée et donc je me suis retrouvée seule, en sachant que j'avais également eu une dispute donc, avec ma meilleure amie, qui n'était pas venue me voir donc, tout le long de mon hospitalisation, je l'avais mal pris. Et on ne s'est pas parlé pendant, après ma sortie de Valver, pendant au moins 6 mois, pendant une période de 6 mois. Et en fait, un jour, je lui ai envoyé un message et je lui ai expliqué mon ressenti par rapport à ce qui s'était passé. Et on s'était donc réconciliés. Et aujourd'hui, donc, on se parle de nouveau. Mais cette personne-là, donc l'autre personne, elle, par contre, elle n'a pas forcément eu la patience ou le fait de comprendre que du coup, c'était pas forcément par rapport à elle, c'était par rapport à un trop-plein de tout ce qui s'était passé ces derniers mois, mais que du coup, j'avais pas verbalisé jusqu'à présent, et donc ça a créé un malentendu, je pense. Et moi, ça m'a vraiment mis mal pendant plusieurs mois.
Et du coup, aujourd'hui, vous regrettez cette relation ?
Honnêtement, non, parce que je me dis que si elle a quitté ma vie, c'est pour une bonne raison, et qu'elle n'était pas forcément prête à accueillir certaines choses qui venaient de moi, alors que moi, j'avais la possibilité d'accueillir, entre guillemets, ses failles. Et je me dis, si elle n'a pas été en capacité de me prendre comme j'étais, comme moi, je l'ai pris comme elle était, avec ses points positifs, ses points négatifs, ses moments de doute, ses moments de tristesse, ses moments de désarroi, c'est qu'elle n'était pas faite pour moi. Même si ça m'a brisé le cœur pendant plusieurs mois, je pleurais, je retournais là où on était allés toutes les deux. Et donc, je dirais que c'est la vie, c'est comme ça.
C'est drôle parce que la façon dont vous en parlez, on dirait vraiment que vous parlez d'un amoureux ou d'une amoureuse. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Du coup, moi, j'entends très fort que ça peut être aussi fort, justement.
Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et que ça peut autant faire mal que le fait de quitter son compagnon, de se séparer de la personne qu'on aime, donc son amoureux.
Je suis très d'accord avec vous.
Ouais. Voilà, donc c'est ma conclusion, donc que les relations amicales peuvent être autant importantes que les relations amoureuses et qu'elles peuvent faire très mal quand ça se termine comme ça, d'un coup, sans explication.
Merci Anissa d'avoir partagé ça avec nous.
Merci Peggy.
Ça fera bientôt 3 années, 3 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater, la vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de tous ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle.
Et même d'attacher les gens dans une cellule, ça leur donne pas le bon moral, hein?
Je veux t'aider, mais c'est dur. C'est dur de te voir osciller entre l'avant et l'après, puis retourner encore dans l'avant. C'est dur de constater que tu n'adhères plus aux soins, alors qu'hier encore, tu avais un bon insight. C'est dur de sentir que tu ne me fais plus confiance quand tu te confiais à moi il n'y a pas si longtemps. C'est dur de gérer ta prise en charge quand je fais un transfert sur toi, que je m'identifie à ta situation et je t'assure que ça peut faire très mal. C'est dur quand tu ne veux pas parler, quand tu refuses tout échange. C'est dur aussi quand tu parles trop, sans jamais t'arrêter, noyé dans un flot de pensées que je peine à suivre. C'est dur de te décrypter, de saisir le sens de tes mots quand tout semble se mélanger. C'est dur d'essayer d'atteindre une partie de toi qui semble si loin, inaccessible derrière ce brouillard qui t'enveloppe. C'est dur de te demander de te confier, alors que c'est la première fois qu'on se voit, alors que pour toi je ne suis qu'un étranger qui cherche à creuser là où ça fait mal. C'est dur d'avoir toujours la patience nécessaire avec toi, avec tant d'autres qui souffrent comme toi. C'est dur d'ignorer les odeurs, ton incurie qui parfois t'accompagne, et de prétendre de ne pas les sentir, de ne pas la voir pour ne pas te blesser. C'est dur d'affronter ta colère, ton agressivité, quand je sais qu'elles sont le reflet de ta douleur. C'est dur de te demander de te calmer, alors que tu as toutes les raisons d'être énervé, que ce soit à cause de tes souffrances ou d'un système qui te semble incompréhensible et injuste. C'est dur ton ambivalence, être le jour et la nuit dans la même conversation. C'est dur de te voir souffrir et de me sentir si impuissante parfois. C'est dur de devoir te forcer à entrer en chambre d'isolement en sachant que cela peut te marquer à jamais. C'est dur de jouer le rôle du gendarme, de vérifier tes consommations, de traquer chaque excès. C'est dur de te répéter sans arrêt les mêmes choses, comme si tu perdais la mémoire. C'est dur de te tendre ces médicaments alors que tu m'accuses de vouloir te shooter, malgré mes efforts pour t'expliquer que ce n'est pas vrai. C'est dur aussi de t'accompagner quand ton quotidien se heurte à des problèmes administratifs qui traînent, l'argent qui n'arrive pas, les arrêts maladie qui tardent à être validés, des obstacles qui pèsent sur ton moral et sur ta capacité à avancer. C'est dur de voir ta famille essayer de t'aider, de faire au mieux pour toi, alors que toi, tu l'aperçois comme un ennemi plutôt qu'un allié. De sentir leur désespoir quand leurs gestes d'amour sont interprétés comme des attaques. C'est dur de devoir te dire encore et encore d'attendre. D'attendre qu'on soit disponible, qu'on puisse enfin répondre à ta demande. D'attendre parce que cela relève du psychiatre, de l'assistant social, du tuteur, et que de moi, je ne peux pas tout régler. C'est dur de me dire que malgré tous mes efforts, je ne suis qu'un repère fragile dans ton monde en chaos. C'est dur, mais je suis là, parce que je veux t'aider.
Green Valley, la radio des ondes libérées.